Au nom du groupe Mission de l'EM, j'ai vraiment cet honneur de pouvoir vous accueillir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, en entrant, j'ai comme l'impression de voir des nouvelles figures que moi je ne connais pas. En tout cas, si vous êtes là pour la toute première fois, ou peut-être que vous avez été absent pendant longtemps, sentez-vous parmi vos frères et sœurs dans le Seigneur et parmi les vôtres. Et vraiment, sentez-vous libre. Rejoignez-nous dans les louanges, dans la prière et même à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père est prêt pour pouvoir nous transmettre la bénédiction du jour et soyez vraiment prêts à nous rejoindre. Je ne sais pas si vous êtes là, vous êtes libre, juste soulevez votre main, qu'on sache que vous êtes là pour la première fois. Voilà. Oh bah, je n'avais pas tort, il y a plus de 4 au moins. Mais en plus de ces 4, nous voudrions accueillir d'une façon vraiment spéciale nos bien-aimés qui sont partis en mission et ils sont parmi nous pour une période de 2 mois de repos, de reconstitution. Je fais allusion ici à Jean-François et Anne Negrini qui sont ici et vous aurez l'occasion de les écouter. Et en fait, aujourd'hui, nous aurons l'occasion de pouvoir écouter les témoignages de la part de Jean-François et de Anne, comment le Seigneur est en train de travailler avec eux, parmi eux, au Niger, un pays spécial. Donc, vous êtes tous invités à rester, pas seulement au courant du culte, puisqu'après ces cultes, nous aurons un moment de partage ensemble et le Seigneur va nous bénir comme il avait béni les 5000 hommes. Et on va partager et après ce partage, il y aura encore une autre séance pour pouvoir écouter davantage le travail que le Seigneur a mis entre les mains de nos bien-aimés. Et en plus de la famille Negrini, les enfants sont avec eux aussi. Je m'excuse. Nous avons aussi, j'ai la joie vraiment d'accueillir également le docteur Foura. Elle est là. Elle vient du Congo. Elle vient du Congo et pour moi, c'est un honneur. Pourquoi ? Parce que elle est médecin chef de zone. Médecin chef de zone au Congo, c'est ce que les anglo-saxons appellent le Health District Officer. Donc, c'est elle qui est responsable pour la zone de santé des Aoumba, avec environ 140 000 personnes habitants. Et c'est elle qui coordonne toutes les activités dans cette zone de santé. Et pour moi, c'est un honneur. Pourquoi ? Puisque je suis né à Aoumba, là où elle est médecin chef de zone. Elle vient de terminer 9 mois de cours en santé publique en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles. Et elle a terminé son examen le vendredi. Avant de rentrer, elle a dit d'accord, elle vient d'abord voir comment se présente l'OMS. Elle va rentrer à Belgique mardi. Et donc, je crois au début du mois de juillet, elle rentre au Congo. Donc, pour moi aussi, c'est une joie de pouvoir l'accueillir. Voilà. Ceci étant dit, remettons en fait toutes les activités du jour entre les mains du Seigneur et prions. Seigneur notre Dieu, nous voudrions vraiment te remercier pour ce jour, ce beau jour que tu nous as accordé ce matin. Avant d'entreprendre tout ce moment de louange, de prière, d'écoute de ta parole et même de temps de témoignage, nous voulons, Seigneur, nous abandonner entièrement entre tes mains. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous guider, nous diriger, que notre attention soit focalisée sur la personne de Jésus-Christ. Seigneur, saisis ce temps pour pouvoir glorifier ton nom. Et Seigneur, merci parce que tu es un Dieu omniscient. Tu connais le besoin de nous tous. Nous sommes à tes pieds et nous t'invitons pour pouvoir nous parler, Seigneur. Nous voulons te demander de pouvoir diriger toutes les étapes de ce culte, que ce soit lors de louanges, Seigneur. Écoute les chants que tes enfants vont élever vers toi. Que cela monte vers toi comme cette bonne odeur, Seigneur, pour glorifier ton nom. Seigneur, nous voulons te remettre également Anne et Jean-François qui vont transmettre le témoignage de ton travail dans cette partie d'Afrique. Seigneur, dirige-les et glorifie ton nom à travers ce témoignage. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier également pour le temps que nous allons passer après les cultes, le repas, et également toutes les présentations sur ce qui se passe au Niger. Oui, saisis ces moments également, Seigneur, pour renforcer notre foi en toi. Enfin, Seigneur, nous voulons penser à tous les nôtres qui n'ont pas pu être ici ce matin, pour diverses raisons. Notre prière est que ta miséricorde puisse les accompagner là où ils sont, à l'hôpital, dans le voyage, où qu'ils se trouvent, Seigneur. Ensemble, nous voulons glorifier ton nom, car nous te le demandons, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous passons la parole maintenant au groupe de louanges. Et nous allons commencer par le chant numéro 546.
Puissant, combien glorieux sa parole soutient le monde, son règne est puissant. Ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié par la bouche des petits. Tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qu'est donc comme ô Éternel, pour que tu le considères. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié.
Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, c'est tellement bon de se retrouver avec toi. C'est tellement bon de se retrouver ensemble pour te louer. C'est tellement bon de s'asseoir à tes pieds. C'est tellement bon de chanter tes louanges. Seigneur Jésus, ce que tu as fait, c'est tellement merveilleux. Ce que tu fais dans nos vies, c'est tellement merveilleux. On pourrait te chanter toute la semaine. Seigneur Jésus, j'aimerais te chanter toute la semaine, m'arrêter une heure pour travailler, puis te rechanter toute la semaine. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous promets la vie en abondance ici, ton royaume ici, ton royaume dans les cieux. Seigneur Jésus, nous t'invitons parmi nous, nous te demandons de te révéler parmi nous, nous te demandons de parler à nos cœurs, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits, nous te demandons ton Esprit Saint sur nous. Nous t'invitons parmi nous, nous avons soif, Seigneur Jésus, de vivre quelque chose avec toi encore, vivre quelque chose avec toi toujours. Seigneur Jésus, sois avec nous.
Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon péché. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai encore à chaque instant tant que je respire. Je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire.
Encore.
Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai.
Bonjour. Alors c'est vrai, nous avons la joie d'accueillir Jean-François et Anne. Et Anne va nous donner quelques instants un peu de témoignage sur leur vécu. Vous savez que ça n'a pas toujours été facile là-bas au Niger. Il y a eu des grosses difficultés, mais comme on le disait ce matin ensemble, on se réjouit parce qu'ils sont avec nous. Alors pour les enfants, j'aimerais simplement vous rappeler que Jean-François et Anne, Anne elle est là, ils ont 3 enfants, il y en a un ou 2... 4, pardon. Il y en a un ici, je ne sais pas où ils sont. Il y en a une là, non, ouais, bon, bref. Ils sont par là, on les verra tout à l'heure. Donc, ils sont toute une famille et ils partent. Jean-François, il est médecin, chirurgien. Alors, c'est un grand mot, il expliquera ça plus tard. Mais enfin, ils partent, ils travaillent dans un hôpital de l'autre côté de la mer Méditerranée, en Afrique, là où les gens sont tous comme Tony, un peu noirs. Et comme la dame qui nous reçoit aujourd'hui, qu'on reçoit aujourd'hui. Et donc, ils sont là-bas et ils travaillent pour cet hôpital, mais surtout, ils travaillent au nom et témoignent au nom de Jésus-Christ. Alors, vous savez, les enfants, des fois, on fait des collectes, c'est-à-dire on fait des offrandes. Même à l'école du dimanche, je crois que vous récoltez quelques petits sous pour peut-être des gros sous, hein, pour envoyer, soutenir la mission, qu'elle soit en France, tout près, à Lille, ou que ce soit jusqu'en Afrique, les grands ici en participent, eh bien, voilà. Et Anne et Jean-François sont de ceux qui sont envoyés par nos églises, et notre communauté en particulier. Alors, on va les écouter, puis après ce moment de témoignage, les enfants, avec vos moniteurs, que Dieu vous bénisse, et simplement vous vous levez, Dominique se lèvera et les autres moniteurs ici, et vous descendrez à... dans vos salles en bas pour votre moment. À toi la parole, Anne, et bienvenue parmi nous.
Merci, bonjour à tous. Ça fait plaisir de se retrouver ici. Mérin, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la communauté dans laquelle j'ai grandi. À l'époque, on se réunissait dans la chapelle à côté. Et il y a maintenant 15 ans en arrière, on est parti et on a d'abord passé du temps au Bangladesh, 9 ans. Avec la mission contre la lèpre, puis ensuite en 2010, on s'est dit que le chaud et humide, ça suffisait, on voulait juste du chaud et sec, et Dieu a ouvert les portes pour qu'on aille au Niger. Et au Niger, il fait chaud, et il fait chaud, et il fait sec. Et il y a de la poussière partout. Alors on est heureux d'être ici pendant 2 mois pour se ressourcer, prendre un peu ce qu'on appelle la vitamine G, enfin la vitamine V plutôt, vert, parce qu'on n'en voit pas beaucoup là-bas. Notre vie de tous les jours, pour vous, ça peut paraître extraordinaire, mais en fait, pour nous, c'est la routine. Jean-François part travailler le matin à l'hôpital. J'amène les enfants à l'école. Je travaille à la bibliothèque dans l'école de nos enfants. C'est une école chrétienne anglophone avec 170 élèves à peu près qui vont de la maternelle jusqu'au baccalauréat. C'est une école qui suit un curriculum américain. Et y a une magnifique bibliothèque. Je vous montrerai des photos après, plus tard. Et je suis la bibliothécaire là-bas. Il y a quelques temps en arrière, vous avez entendu parler, donc au mois de janvier, qu'il y a eu des événements assez tristes qui se sont passés à Niamey et aussi dans une autre ville, Zinder. Et jusque-là, nous, on n'avait jamais eu de soucis. Le Niger est un pays à 98% musulman, mais il y a beaucoup de tolérance, les gens vivent ensemble, ils veulent vivre en paix. Il y a beaucoup de tribus qui cohabitent les unes avec les autres. On trouve pas de tribalisme comme dans d'autres pays d'Afrique. Et il y a eu l'événement de Charlie Hebdo, qui a conduit à des violences au Niger, avec une première flambée de violence à Zinder, où ils ont brûlé des églises et des maisons de pasteurs. Puis, le samedi 17 janvier, la même violence s'est répétée à Niamey. Alors, on était à la maison, et puisque c'était le samedi, on n'avait rien prévu de faire. On était tranquille et en fait, on a commencé à recevoir un coup de fil d'une infirmière de l'hôpital qui nous a dit « il faut surtout pas que vous sortiez, il y a des choses qui se passent en ville, donc restez chez vous ». Alors, on est resté chez nous, il faut que vous sachiez que au Niger, toutes les maisons sont sur des concessions et il y a chaque fois un mur autour de chaque concession. Que les maisons soient en dur comme la nôtre ou soit des huttes ou des cabanes, ou des maisons plus simples, il y a à chaque fois des murs autour. Nous, on a un portail, on a un gardien. Et bon, on était plus ou moins protégés, mais on sait bien que quand il y a une foule qui dévale, qui passe dans les rues, si elle veut l'entrer, si les gens veulent entrer, ils entrent sans problème. Donc, on est resté tranquille chez nous, puis on recevait les nouvelles que l'une après l'autre, les églises étaient brûlées, des maisons, des pasteurs. Les gens eux-mêmes n'étaient pas ciblés, donc il n'y a pas eu de morts dues à ces incendies et à ces violences. Mais il y a des pasteurs qui ont tout perdu, il y a des écoles qui ont brûlé aussi. Et puis, par la suite, une fois qu'ils ont fait le tour de tous les quartiers et que toutes les églises étaient brûlées, je pense qu'ils sont rentrés chez eux. Mais c'est vrai que ça a provoqué une tension dans la ville. Les gens, ils osaient plus trop sortir. Le samedi, le dimanche, on est resté chez nous. Le lundi aussi, l'école a été annulée. L'hôpital non plus n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que quand on reprend la vie après de tous les jours, on se dit, je passais dans la rue parfois en voiture, puis je regardais les jeunes qui étaient sur le bord des routes et je me disais, est-ce que eux, ils ont partagé ces violences? Est-ce qu'ils ont participé à ces violences? Est-ce que ceux qui m'entourent me regardent comme étant la blanche, comme étant la femme chrétienne, peut-être qu'il faut cibler la prochaine fois. Et on a eu des échos comme quoi il y avait des voisins qui avaient donné l'indication aux jeunes qui étaient là, aux casseurs. Il y a une église là-bas, faut aller là-bas. Mais on a aussi eu des indications comme quoi il y avait des gens, des voisins, qui se sont mobilisés, qui sont allés devant les portes des écoles, de certaines écoles ou de certaines cliniques chrétiennes pour dire, non, il ne faut pas brûler ici. Parce que nous, on met nos enfants là, à l'école, et on ne veut pas que vous brûliez, il faut aller ailleurs. Donc, il y a eu des gens qui ont dénoncé et des gens qui ont protégé. Et puis, après un événement comme ça, il faut reconstruire un peu la confiance, parce qu'il y a, il y a toute une confiance qui a été brisée. Et ça prend du temps. Les églises de Niamey et du Niger se sont réunies et puis ont fait une déclaration pour dire qu'ils voulaient pardonner et qu'ils voulaient pas faire escalader la violence, qu'ils voulaient pardonner à ceux qui avaient fait ça au nom de Allah, finalement, au nom de l'islam, ils croyaient faire bien. Et je crois que la confiance, ça met du temps à se rebâtir. La vie, elle est redevenue normale. On se promène dans la rue, on n'a pas de soucis. Les gens qu'on côtoie nous ont dit en tout cas qu'ils étaient désolés pour ce qui s'était passé. Et puis la vie a repris son cours. Les églises se reconstruisent. Vous avez participé en tout cas financièrement et puis on sait que vous étiez aussi avec nous dans la prière. À la reconstruction de notre église, nous on va dans une petite église qui est très simple. Alors elle a été brûlée, mais il n'y avait vraiment pas grand chose à brûler. Il y a des chaises en plastique qui ont brûlé, il y a des ventilateurs qui ont fondu, donc ça c'est un élément important au Niger, ventilateur. Il y a le pupitre du pasteur, et puis pour l'église c'est tout, parce qu'à part ça il y a les murs en béton, en ciment et puis en briques, et puis il y a le toit en tôle ondulée, donc ça c'est resté. La maison qui est sur la même concession, dans laquelle habitait une maman de l'église, qui est la veuve de notre ancien pasteur, cette maison a été aussi détruite et elle avait beaucoup de choses dedans. Alors les enfants ont pu sauver leurs affaires scolaires, elle a pu sauver son frigo, un ordinateur, sa télévision, mais c'est vrai qu'elle a perdu des choses, mais maintenant elle est encore mieux logée qu'avant, donc finalement, pour elle, c'est presque mieux. Que cette maison ait été détruite, parce que comme ça, on peut reconstruire quelque chose de mieux. Et puis, on vous montrera des photos après de ce qu'on est en train de faire sur la concession de notre église. Voilà, je crois que pour maintenant, ce sera tout. Et peut-être le temps des questions, ce sera plus tard. Et puis, je vais passer la parole à la suite. Merci.
C'est le moment. Allô. 1, 2. Check. Merci. C'est le moment des enfants. Seigneur Jésus, on aimerait te remettre nos enfants. Merci parce qu'ils sont merveilleux. Merci parce que tu nous les as confiés à nous comme parents, à nous comme famille, à nous comme église. Et Seigneur Jésus, nous aimerions les bénir en ton nom. Nous aimerions bénir les moniteurs qui s'occupent d'eux en ton nom, qui puissent leur communiquer ta parole. Seigneur Jésus, nous te demandons donc dans le cœur de nos enfants, des enfants de l'Église, tu puisses allumer cette flamme, que tu puisses leur parler. Nous réclamons, Seigneur Jésus, leur vie pour toi. Béni soit ton nom. Amen.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné. Chantant tes louanges, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau. Dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi.
abri, mon Seigneur. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu.
Oui, ça marche. Nous aimerions passer un temps ensemble pour entourer nos amis dans la prière. Je crois que Dieu les a placés dans un endroit stratégique. Parce que c'est vrai qu'une des grandes questions de la mission aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut être témoin, être des bâtisseurs de paix dans des lieux où la violence éclate précisément au nom de la religion. Et avec toute l'humilité qu'impose le souvenir de notre propre histoire. Et je crois que le témoignage d'Anne était très fort à ce sujet. Comment reconstruire la confiance ? quand la violence a éclaté, quand des gens avec qui vous avez cru avoir des relations de confiance ont été des dénonciateurs. D'où est-ce que ça vient, tout ça? Mais je crois que Dieu a une mission pour eux, au nom de l'Évangile, au milieu de cette situation. Nous prions et Roger apportera la prière conclusive. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour le témoignage d'Anne ce matin. Merci de les avoir gardés. Merci de les amener parmi nous pour témoigner de cette situation. Et donne-leur tout ton esprit pour être tes témoins là-bas au Niger. Amen.
Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est avec joie et avec reconnaissance que nous t'apportons nos amis Anne, Jean-François et les enfants. Nous voyons au travers du témoignage d'Anne que tu n'épargnes pas tes envoyés, mais tu les gardes. Et nous voulons te dire merci pour cela. Merci de bénir pour eux ce temps de ressources de cet été. Merci de les visiter. Merci de leur permettre d'emmagasiner toutes ces vitamines spirituelles et de toutes sortes dont ils auront besoin pour repartir en septembre. Oui, Seigneur, c'est toi qui les accompagnes, qui mets dans leur cœur la joie et la paix. Et bien sûr, nous t'apportons aussi ce retour là-bas, au Niger. En t'apportant toute situation, nous te remettons les employés de l'hôpital, t'apportons tous ce peuple, tous ces gens qui habitent là-bas, et nous réclamons sur toi ta paix, une bénédiction toute spéciale pour qu'ils ne puissent plus imaginer entrer dans une telle violence. Merci Seigneur, parce que nous savons que nous pouvons te faire confiance, alors nous te les apportons les uns les autres, et nous te remettons toute cette situation qui nous dépasse, mais qui existe bien au-delà. Nous t'apportons cette situation et cette famille devant toi et dans le nom de Jésus. Amen.
Nous avons proclamé notre foi que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous te bénissons pour le témoignage de Jean-François, d'Anne, de leurs enfants, qui, de par ta présence en eux, déclarent cette réalité, de par leur comportement, de par ton esprit qui leur a donné la paix dans la difficulté. Nous te bénissons pour ta présence dans leur vie, de ce que tu les qualifies pour le ministère que tu leur as confié, que tu es avec eux chaque jour, te louant pour ta fidélité. Te prions pour leurs enfants, que tu continues de les faire grandir dans la connaissance de toi, Seigneur Jésus, que tu continues de les garder, de les préparer pour l'avenir que tu as en réserve pour eux. Merci de ce que tu les as appelés à ce service et dans ta fidélité, nous savons que toi, tu intercèdes en leur faveur. Et Seigneur, nous te prions de nous faire grandir dans notre responsabilité aussi d'intercéder, accompagner, nous souvenir d'eux. Merci de ce que nous pouvons te les confier pour ce temps à l'écart et pour la reprise. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous prions. Amen.
Je souhaiterais que l'Assemblée puisse exprimer quelques prières aussi.
Seigneur, nous voulons te redire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin que ton nom soit connu, que tous les peuples te connaissent et que la paix puisse régner dans ce monde. Seigneur, nous te demandons de bénir ton Église jusqu'aux extrémités de ce monde. Souviens-toi de ceux qui sont persécutés à cause de ton nom. Seigneur, sois leur force en cette journée de dimanche. Renouvelle leur foi et leur confiance dans ta bonté et dans ton amour. Au nom de Jésus.
Amen. Amen.
Amen. Oui, Seigneur, nous voulons répéter que nous accueillerons Anne et Jean-François avec joie dans cette communauté. Nous prions pour qu'ils puissent se faire du bien pendant leur temps de congé. De bénir pendant cette période et que tu bénisses aussi tous ceux dans cette communauté qui sont attachés à l'œuvre missionnaire et que tous nous puissions revivre quelque chose et m'encourager par ce que tu fais au loin, ce que nous sommes qui accompagnent ceux qui partent pour le service que tu leur as confié là-bas. En particulier au Niger, Seigneur, qui permette que la paix revienne, que la paix puisse soit durable, que la collaboration, comme l'a dit, des différentes tribus puisse aller s'améliorer. Seigneur, nous prions pour que tu continues d'encourager ceux qui partent pour que, de répondre à ton appel. L'appel que tu fais retentir parmi les chrétiens. Et nous prions en Jésus-Christ.
Amen.
Amen.
Oui, Seigneur, nous te remettons encore une fois, Anne et Jean-François et tout leur ministère. Nous te remettons ce pays du Niger. Nous te remettons tous leurs amis, leurs collaborateurs, dont beaucoup sont musulmans. Nous te prions qu'à travers ce service, à travers leur témoignage, à travers le témoignage de l'Église, tous ces gens puissent découvrir, apprendre à connaître Jésus-Christ, comprendre ce qu'est le message de paix de l'Évangile, le message du pardon. Merci parce que tu les as envoyés là-bas pour incarner ce message et en être les témoins. Au nom du Christ. Amen.
Ben, c'est un peu la fête aujourd'hui. Ceux qui sont partis sont revenus. Et on a le plaisir de les accueillir. Et c'est vrai que j'ai remarqué que chaque fois qu'on veut fêter quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, mon ami Olivier ? On fait une petite bouffe ? On ouvre du jus d'orange ? Peut-être quelque chose d'autre ? Et on se réjouit ensemble et autour du repas. Alors, il y a fort longtemps en arrière, c'était aussi le temps de la Pâque à Jérusalem. Et le Christ savait, lui, ce qui allait arriver pour lui, ce temps de passion. Mais il a voulu faire la fête encore avec ses disciples. D'ailleurs, ils ont chanté même après. Il a voulu faire la fête, et cette fête s'est faite autour d'un repas, autour d'une table, certainement garnie et bien garnie. Alors aujourd'hui, on fait la fête. Et c'est vrai, on le fait devant notre Seigneur. Et nous voulons accueillir nos amis Jean-François et Anne à la table. Soyez les bienvenus. Prenez et mangez dans la joie et la communion des frères et des sœurs et de l'Église. Et ainsi que tous ceux qui nous viennent pour la première fois, je ne me rappelle plus le nom de madame aussi, bienvenue à la Sainte Seine et tous les autres. Prenons, mangeons, rappelons-nous tout ce que le Christ a fait pour nous. C'est cela qui motive aujourd'hui encore des gens à témoigner, que ce soit ici ou que ce soit aux extrémités, comme l'a dit Bernard dans sa prière. Et rappelons-nous aussi que nous le faisons jusqu'à. Ce jusqu'à, j'avais d'ailleurs prêché une fois là-dessus, jusqu'à ce qu'il vienne. Cette attente qui ne peut qu'être remplie de la part des enfants de Dieu que de foi, de reconnaissance, d'amour, de service et d'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà ceux qui veulent distribuer la Sainte Seine, vous pouvez venir. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il est livré, nous le savons, a fait la fête avec ses disciples autour d'un repas. Et pendant le repas, il prit le pain, il rend grâce à Dieu son Père, il le rompt et le donne à ses disciples en disant « Ceci est mon corps. Ce corps qui est donné pour vous, qui est rompu, brisé pour vous. Faites ceci toutes les fois que vous êtes ensemble en mémoire de moi. » De même, après le souper, il prit la coupe de vin et dit « Ceci est mon sang, le sang qui est répandu pour vous, pour la rémission des péchés de chacun, ce sang de la nouvelle alliance avec Dieu mon Père. Faites ceci, partagez-le entre vous et faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. » Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, parce que c'est bien grâce à toi et tout ce que tu as fait, parce que tu es au fond de nos cœurs, tu es présent dans notre Église, que nous croyons, que nous espérons encore à ce retour. Et surtout, nous croyons que tu es vivant et que tu agis encore aujourd'hui. Alors c'est dans ce sens-là, dans cette communion avec tous les saints, nos frères et nos sœurs dans le monde qui aujourd'hui partagent ce repas, que nous nous réjouir et nous rappeler que cette réjouissance ne peut venir que de ce que tu as fait pour nous dans ton immense amour. Sois loué et béni, Seigneur Jésus. Amen. Au centre des plateaux, je rappelle qu'il y a du jus de raisin dans les petits gobelets rose-violet. Et je prends aussi la coupe. Ceux qui préfèrent partager la coupe me font signe et je l'amènerai.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous venons de passer ensemble avec toi. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous te remercier pour cet amour insondable que tu as manifesté sur la croix. Seigneur, à travers ce sang, ce vin que nous avons pris, ce pain, nous nous rappelons bien de la souffrance que tu as accepté de porter sur cette croix, cette douleur. Et Seigneur, fais que ce geste puisse nous fortifier tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.
Les yeux de mon cœur.
Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es roi. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir.
Alors nous avons la joie d'entendre de la part du Seigneur notre ami Jean-François. Et je voulais te dire, Jean-François, parle dans cette liberté que donne Dieu dans son Église. Alors on veut prier pour toi. Seigneur Jésus, nous avons donc dit, nous avons chanté « Ouvre les yeux de notre cœur, de mon cœur, afin que nous puissions entendre. » Plus qu'entendre, écouter, saisir ce que tu veux nous dire ce matin au travers de la bouche de Jean-François. Nous le bénissons en ton nom, croyant que c'est ton serviteur et que tu le bénis et tu le remplis de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Alors je vais vous lire le texte dans la Bible, dans la version du Semeur, sur lequel Jean-François va prêcher. Il s'agit de Luc 7, les versets 36 à 47. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit alors à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux, et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. » Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent et le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous les deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ? Et Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. »« Voilà qui est bien jugé, » lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit, « Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. »
Alors bonjour de nouveau à tout le monde. Merci pour votre accueil, chaleureux et généreux. Et quand le groupe Mission m'a sollicité, m'a demandé de partager quelque chose avec vous, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être approprié ou en tout cas intéressant de partager aussi en relation avec ce que nous on vit au Niger. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de honte et d'honneur. C'est des choses qui sont au cœur de ce qu'on expérimente au Niger, dans des pays au Bangladesh, dans des pays où justement cette culture d'honneur et de honte imprègne toute la culture. On en est beaucoup moins conscient ici en Suisse parce qu'on n'a pas tellement habitué à ce type de culture, mais je crois qu'à travers cette histoire, vous verrez, en allant un peu plus en profondeur, on va découvrir aussi des choses pour nous, peut-être que vous les connaissez déjà. Mais c'est une histoire qui me touche, qui me frappe dans le parcours de Jésus parce qu'elle met aussi en lumière une manière qu'a eu Jésus de répondre aux gens, de raconter ses petites histoires, ses paraboles, qui étaient beaucoup plus provocantes qu'on le pense ou qu'on l'assume habituellement. Et moi, je vous propose simplement de reprendre ce texte tranquillement. La honte, l'honneur, la gêne dépendent énormément de la culture et typiquement même entre notre culture suisse et la culture nord-américaine, on expérimente régulièrement que les choses sont très différentes. Quand moi j'étais en Suisse, jeune, à l'école primaire, après, plus tard, j'aimais bien aller nager, je portais des costumes de bain, speedo, court, c'était habituel, on était toujours avec ces costumes de bain-là. Maintenant, si j'essaye de porter un costume de bain comme ça avec mes enfants, c'est la honte maximale et je risque de me retrouver devant la piscine tout seul parce que la culture nord-américaine, c'est les Bermudas et c'est absolument impensable d'aller à la piscine avec un speedo, comme ils l'appellent. C'est une question de sensibilité culturelle dans des choses de détail. Et dans cette histoire, j'aimerais que vous réalisiez aussi et que vous réalisiez que la culture de l'époque du temps de Jésus, elle était beaucoup plus proche de la culture africaine, de la culture bengalie dans laquelle on a évolué pendant des années, de la culture du Laos, de ces cultures asiatiques où il y a des relations communautaires extrêmement serrées, tout le monde se connaît, tout le monde a sa place, mais quelque part, le respect qu'on a pour les uns et pour les autres, il est essentiel, il est fondamental. Et le respect et l'honneur qui est donné à une personne est très important. Et perdre son honneur, perdre la reconnaissance sociale, c'est presque mourir. Et la réalité, par exemple, pour des musulmans qui choisissent de croire autre chose, qui quittent la foi musulmane, quelque part, c'est une perte d'honneur, pas seulement pour eux, mais pour tout le reste de la famille. C'est presque un suicide social dans certaines circonstances. Alors, je vous invite à reprendre simplement cette histoire en allant un petit peu en profondeur sur certains aspects que je trouve très, très importants dans notre façon aussi de comprendre et d'imaginer Jésus. Alors, Jésus est invité, il a un repas, il se rend chez lui, il se met à table. Et puis, il y a cette femme qui arrive. Cette femme de mauvaise réputation est typiquement dans ce réseau social, tout le monde sait qui elle est. Certainement que tout le monde a une bonne idée de pourquoi elle a une mauvaise réputation, de ce qui s'est passé. Pensez aussi à la femme au bord du puits avec Jésus, la façon qu'elle a d'accrocher les gens quand elle retourne pour annoncer qui est Jésus, c'est de dire « il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Et c'était lourd de signification. Ici en Suisse, on peut très bien vivre par cercle, isolé, les gens sont parfois dans notre culture occidentale, beaucoup plus isolée, tout le monde ne sait pas forcément tout ce que vous avez fait, mais dans ce type de culture, tout le monde savait. Et quand cette femme arrive, elle vient derrière Jésus, elle vient à ses pieds, elle pleure, et elle pleure beaucoup, parce que pour arriver à mouiller les pieds de Jésus, il fait chaud là-bas, il faut pleurer à gros bouillons. Les raisons, elles ne nous sont pas données, mais quelque part, il y a quelque chose de profond chez elle, et elle avait déjà quelque chose derrière la tête parce qu'elle vient déjà avec son vase d'albâtre. Elle ne vient pas juste spontanément comme ça. Quelque part, c'est une action qui est préméditée, mais elle a le cœur lourd, elle pleure et en fait, Jésus la laisse faire. Il ne dit rien, il laisse aller les choses. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez la situation, quelqu'un qui vient derrière lui, devant tout le monde la connaît. Et elle pleure, et il y a la flaque par terre. Elle commence à lui essuyer les pieds avec ses cheveux. C'est certainement un petit peu gênant. On imagine que ce serait gênant pour nous, mais je vous assure certainement que dans une culture comme ça, c'est un petit peu embarrassant. Et elle lui embrasse les pieds. Et pour finir, elle répand du parfum sur ses pieds. Et là, Simon, il commence à travailler. Et dans certaines traverses du cerveau, il dit, mais si cet homme, il était vraiment prophète, alors il saurait de quel type de femme il s'agit. Et beaucoup de traductions disent qu'il le pense seulement. Mais en fait, dans la traduction typiquement du semeur, Jésus, il est dit qu'il lui répondit, comme si ce qu'il avait pensé de cette femme se lisait tellement fort dans son expression de ce qu'il était que c'était une évidence qu'il avait même exprimée. Jésus lui répond, c'est pas Jésus. Alors dans la version en français courant, elle répond simplement, il dit Jésus prit alors la parole, à la suite de ce qu'il avait compris qu'il pensait. Dans la version du semeur, il dit Jésus lui répondit, et il insiste encore, il lui répondit à haute voix. Il lui répondit d'une manière, non pas pour que ce soit discret, façon suisse, tranquille, en douce, il le dit devant tout le monde, à haute voix, pour que ce qu'il va dire soit perçu de tous, pas seulement de Simon, mais de tout le public qui est là. Et Jésus lui raconte sa petite histoire, et Simon, qui est un pharisien, même dans sa façon de répondre à Jésus, on dénote déjà quelque part pas ce mépris, mais en tout cas cette supériorité de jugement vis-à-vis de Jésus lorsqu'il, dans ses pensées, lui dit « Mais si cet homme, il était vraiment prophète, alors il saurait ces choses-là. » Mais quand Jésus lui raconte sa petite histoire, la réponse, elle paraît tellement évidente que le pharisien, il ne voit pas vraiment où est le piège. Puis il lui dit « Mais je suppose, d'une façon de dire, comme l'élève à qui on pose une question tellement évidente, à laquelle la réponse est trop facile, il dit « Ouais, ben je suppose que ça doit être ça, effectivement. » Et Jésus l'encourage, lui dit « T'as très bien répondu. » Et là, il va une étape plus loin. Et je pense que là, on a des choses aussi à apprendre dans la façon de répondre et d'envisager les choses de Jésus. Il dit « C'est bon, j'ai quelque chose à te dire. » Et après, il lui dit « Tu as raison. » Et puis, il se tourne vers la femme. Puis, il dit « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux, et tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds, justement pas lui, depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. » Et là, pardonnez-moi, je ne connais ni le grec ni l'hébreu, mais les traductions, il y a certainement une subtilité dans le sens, parce que dans la version du semeur, ce qui est dit que c'est son grand amour pour moi qui est la source de son pardon, et qui est la raison du pardon. Mais ce qui est frappant dans cette confrontation, et en particulier dans une culture où la honte et l'honneur définissent les rapports humains, c'est que Jésus confronte et compare ce pharisien à cette femme de petite vie, de rien, qui quelque part, sur le plan social, elle a tout perdu. Elle est connue de tout le monde, elle a quelque part le courage de se présenter là, on ne sait pas où elle l'a trouvé, mais quelque part, il commence par faire cette comparaison entre l'accueil du pharisien et l'attitude de cette femme. Il faut bien imaginer que dans ce type de culture, ça, c'est déjà une provocation, je dirais, inimaginable. C'est quelque chose de choquant. Et ensuite, comme invité, Jésus se permet de faire la comparaison. C'est-à-dire, quelque part, il dit à Simon, tu ne m'as accueilli superficiellement, d'une façon légère, tu ne m'as pas honoré pour les besoins apparemment normaux de cette époque, de laver les pieds, et tu ne m'as, en ne moignant pas d'huile, qui était la reconnaissance aussi quelque part de l'autorité de Jésus, disait, tu ne m'as pas respecté pour ce que je suis. Alors que cette femme, elle l'a fait à sa façon, justement en me manifestant un respect supérieur, parce qu'elle n'a pas osé faire peut-être les gestes ou avoir les attitudes que le pharisien aurait pu avoir à l'égard de Jésus. Elle était à ses pieds tout le temps, dans une attitude de révérence, dans une attitude où quelque part elle n'avait plus rien à perdre, parce qu'elle était déjà connue de tout le monde. Et Jésus met en comparaison ces deux éléments-là, en public, devant tout le monde, et quelque part, il cloue au mur le pharisien, parce que c'est un petit peu excessif, mais quelque part, il démonte tout le manque de respect, toute l'arrogance de ce pharisien, en le confrontant justement à une femme qui était peut-être prostituée. Et je ne sais pas si vous avez jamais réalisé à quel point ce que Jésus a fait là, c'est quelque chose de totalement, de complètement politiquement incorrect à son époque. Souvent, on voit beaucoup le fait qu'il a accueilli cette femme, qu'il l'a reconnue, qu'il lui a redonné son honneur devant tout le monde, mais on ne voit pas et on ne parle pas très souvent du fait que quelque part, il a ciblé aussi l'attitude du pharisien. Il a démasqué ce qu'il y avait au fond du cœur de ce pharisien et l'a fait publiquement sans aucune, je dirais, sensibilité par rapport à l'étiquette, par rapport aux règles sociales de bienséance. Il était invité, il aurait pu bien se comporter, il aurait pu... Non, non, absolument pas. Le critère sur lequel cette femme est pardonnée, c'est pas tout ce qu'elle a fait, c'est beaucoup plus l'amour qu'elle a témoigné. Et Jésus, il discerne ça, il le reconnaît dans son cœur. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que simplement, je dirais, le fait d'être, d'aimer Jésus, de se tourner vers lui. Mais quelque part, Jésus, ce qui démontre et ce qui touche ici aussi, en public et devant tout le monde, c'est une forme, je dirais, qui nous rejoint parfois, une forme de superficialité ou d'hypocrisie ou de, comme disent les anglo-saxons, une façon d'être casual avec Jésus que n'a absolument pas cette femme. Et cette femme, justement, elle n'a plus rien à prouver. Et je ne sais pas si vous avez eu des amis qui n'ont plus rien à perdre. Il se trouve que dans le passé, il y a longtemps, j'ai eu un ami qui était toxicomane. Et ça m'a souvent frappé de voir à quel point, dans ses rapports, dans sa façon de dire, de partager les choses, il n'y avait plus de honte, il n'y avait plus de gêne, il avait déjà tout perdu. Et il y avait une immédiateté dans les relations, dans la façon d'envisager les problèmes que je n'avais pas, que je ne retrouve pas, parce qu'on est parfois beaucoup plus guindé, crispé, et que j'ai retrouvé comme une caractéristique de ceux qui n'ont plus rien, qui n'ont plus rien à perdre. Cette femme, quelque part, elle était exactement dans cette situation. Et c'est dans cette situation seulement, quelque part, qu'on peut s'approcher de Jésus, quel que soit authentiquement de Jésus. Et c'est ce qui vient vraiment démasquer. Alors, vous me direz, bon, ça c'est la culture du temps de Jésus, c'est la culture au Niger, c'est la culture au Bangladesh, c'est culture de honte et d'honneur. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on peut tirer aussi pour nous de nos cultures occidentales, de nos cultures suisses, et qui touchent peut-être à des domaines sensibles, mais différents, par rapport à ce que signifie ou ce que peut signifier le fait de suivre Jésus, le fait de prétendre être un chrétien. Et qu'est-ce que ça signifie, par exemple, comment est-ce qu'on envisage cette loyauté du cœur essentielle, fondamentale à l'égard de Jésus dans la vie de tous les jours, comme personne, comme famille, sur le plan ecclésial, comme communauté. En Suisse, on a aussi des points très sensibles. On n'aime pas tellement être perçu comme des radicaux. On n'aime pas tellement être perçu comme des fondamentalistes. Il y a vraiment des termes qui sont des termes qui touchent. On n'aime pas tellement être perçu. Les votations sur les minarets, vraiment, il y a beaucoup de monde qui a été embarrassé parce qu'elles nous ont affiché aux yeux du monde entier comme des gens intolérants. Et tout le monde pensait que les Suisses étaient très, très tolérants. On a nos zones de sensibilité, on a nos zones sur lesquelles peut-être que Jésus a nous visités aussi pour nous dire, mais dans ces domaines de honte et d'honneur, est-ce qu'on a honte, par exemple? Est-ce qu'on est gêné? Pas dans le sens d'être appelé chrétien. Pas ça, on est d'accord. Ça, c'est des... Mais on est apprécié tant qu'on reste tolérant. On est apprécié tant que, je dirais, on respecte le consensus ou le politiquement correct. Mais est-ce que comme chrétien, on est prêt, dans notre cœur, on est prêt à devenir aussi fou que cette femme? Est-ce que vraiment dans notre cœur, on a cet élan qui l'a poussée, elle, à se faire toute petite, à s'approcher de Jésus avec une considération extrême qu'on professe des lèvres? Mais quelque part, cette histoire, elle est très puissante parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges qui sont faits. Et Jésus fait, je dirais, tire toutes ses conclusions sur des actes qui sont posés, sur la manière dont ce pharisien l'accueille, sur la manière dont cette femme vient à ses pieds. Et on peut dire toutes les belles paroles du monde. Un jour ou l'autre, quelque part, nos actes, ils viennent confirmer ou ils viennent trahir certaines de nos belles paroles. Et je crois que l'encouragement et le défi aussi pour nous, c'est d'oser nous poser ces questions sur le plan individuel, sur le plan personnel. Qu'est-ce que ça signifie d'aimer Jésus? Dans la vie professionnelle, j'y suis confronté différemment, mais j'ai été confronté en Suisse. Qu'est-ce que ça signifie de vivre en aimant Jésus, en passant peut-être parfois pour quelqu'un de ridicule, parce que ce qui est important pour Jésus, ça va être ce qui est important dans le travail, dans nos relations, dans notre façon de l'honorer. Et ça peut avoir un prix. Ça ne signifie pas forcément de se singulariser par des attitudes bizarres. Mais est-ce qu'on est prêt à prendre le risque d'être bizarre comme cette femme, éventuellement, si c'est une façon d'honorer Jésus, plutôt que de respecter et de porter un certain malaise, mais par fidélité à Jésus, de le vivre, plutôt que de respecter, de rester sous l'influence de notre propre culture, du politiquement correct, du qu'en dira-t-on, quelque part, si on disait de moi que je suis un fondamentaliste ou que je suis un radical. Mais est-ce que, si on reprend l'Évangile, si on regarde Jésus dans cette histoire, si on reprend les appels que donne Jésus à ceux qui veulent le suivre, est-ce que vraiment on peut dire que Jésus n'était pas un radical? Est-ce que vraiment Jésus était si soft et si conciliant que ça? Quelque part, son accueil, sa grâce, elle est, je pense qu'on est tous convaincus ici. On aime beaucoup plus en parler parce que je crois qu'on est convaincus que sa grâce, elle est riche, elle est bien réelle pour nous, dans nos propres vies, autour de nous, et c'est ce qu'on a envie de proclamer. Mais est-ce qu'on proclame tout? Est-ce que la fidélité à ce que Jésus nous annonce dans l'Évangile? Et là, je suis entièrement ouvert aux confrontations, aux discussions, mais je suis toujours frappé que quand je vais vraiment lire ce qu'il a dit, les encouragements qu'il a donnés à ses disciples à le suivre, d'abord, il n'a pas forcément fait de la publicité, mais après, il leur a dit assez honnêtement, vous voulez me suivre, mais prenez le temps de réfléchir. Parce que cet amour du cœur, cette radicalité du cœur, ce n'est pas moi qui peux dire ce qu'elle va signifier pour les uns et les autres. Par contre, je dirais dans cet exemple et dans tout ce que je vois de l'Évangile, il y a cet appel renouvelé, incessant, à être des radicaux au fond même de notre cœur pour Jésus, pour honorer Jésus. Alors, je nous invite simplement à reconsidérer ça parce que c'est une réalité aussi pour nous dans notre vie de tous les jours au Niger, dans une culture différente, mais le cœur, il est le même. Le cœur des choses, l'essence des choses dans notre vie avec Dieu. Et c'est le cœur d'une vie qui est heureuse et épanouie, ou c'est l'opposé, une vie qui va rester superficielle, une vie qui va devenir sèche, qui va perdre sa substance. Parce que le cœur, c'est cet amour fondamental qui est prêt à être comme cette femme, parce qu'elle a compris combien elle était aimée. Alors, je m'invite, moi le premier, hein, parce que je fais partie de ce que je vous dis, je vous le livre, mais ça m'interroge aussi. Je suis aussi interpellé à certains tournants dans ma vie personnelle, dans certains des choix. Mais je crois que c'est le cœur de ce qu'on est appelé à vivre comme personnes qui voulons être des témoins fidèles. Nous sommes appelés à être le sel, nous sommes appelés à être la lumière. C'est pas de l'arrogance, c'est pas de la prétention. C'est beaucoup plus humble que ça, mais c'est un appel qui est authentique pour chacun d'entre nous. Et que Dieu nous accorde de le vivre ici en Suisse, dans nos situations de famille, nous au Niger. Pour tous, l'appel, il est le même. Alors que Dieu bénisse sa parole et j'espère que vous aurez pu être encouragés aussi par cela. Amen.
Merci beaucoup, Jean-François, pour ces rappels. Au Seigneur, garde nos cœurs, plus que toute autre chose, que nous tenions fermes pour toi. Nous aurons l'occasion, pour ceux qui restent encore après, on peut partager avec lui sur ce sujet. Nous avons le temps de l'offrande, et pendant que nous allons chanter, je n'ai plus le numéro du chant, mais ça ne fait rien, vous allez s'inscrire là. Nous allons simplement récolter ce que Dieu vous a mis à cœur pour son service.
sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Et chacun
remettre cette offrande. Ô Seigneur notre Père, nous te disons notre reconnaissance de pouvoir partager un peu de nos biens. Tu, avec toi, nous devenons généreux et nous pouvons par cette offrande rejoindre les extrémités de la terre au travers de nos envoyés. Que nous t'apportons les uns les autres. Tu les connais, Seigneur. Tu sais de quelle manière ils ont besoin d'être visités, encouragés dans leur ministère. Merci pour cette œuvre, Seigneur, qui vient de nous et qui part de toi, qui passe au travers de nous et qui retourne à toi. Merci, Seigneur, de cette liberté que nous avons. Et nous te disons merci pour cela. Amen.
Nous arrivons au moment des annonces. Je ne sais pas si les annonces sont arrivées jusqu'à toi, Christophe. Je vais brièvement les commenter. Donc, il y a ce camp pour les jeunes qui sera tout au début du mois de juillet. Il y a quelques images qui nous rappellent que ça a lieu à Colonie. Il y aura également Kids Games au mois d'août, donc il y a les deux possibilités pour nos jeunes d'assister à des camps tout près de chez nous. Voilà le lieu, l'IBG. Le lieu plus précisément. Donc, il y a encore de la place pour ce camp. Donc il y a des flyers sur le présentoir, on saura tout. Voilà, et des annonces plus près de chez nous. Voilà, plus près de chez nous, d'abord, je rappelle le temps de parole de notre culte, c'était notre groupe Mission. Et ils m'ont demandé de signaler Mission Net, la grande rencontre de jeunesse. C'est à la fin de l'année, mais c'est à partir de maintenant qu'on peut s'inscrire. C'est vraiment à recommander à nos jeunes et moins jeunes. Offenburg en Allemagne, 3000 jeunes de toute l'Europe qui se retrouvent. Donc, si vous êtes plus à l'âge d'aller à notre camp de ski, Mission Net en Allemagne, c'est pour vous à la fin de l'année. Il y a aussi un flyer au tableau. Voilà. Sinon, aujourd'hui, c'est le repas canadien qui suit notre culte. Vous êtes invités. Nous allons poursuivre notre temps de faire connaissance avec ce que vivent nos amis au Niger. Photos, questions, encore plus d'informations. Donc, si vous le pouvez, restez, même si vous n'avez pas pensé à porter à manger, vous êtes bienvenus. Mercredi, c'est la première rencontre pour celles et ceux qui vont chanter dans la chorale pour marquer les 20 ans. Nous sommes invités en tant qu'église de chanter à Forum Mérin pour les 20 ans de Forum Mérin. Donc ce mercredi, 18h30, rendez-vous ici pour la planification et le démarrage de ce qui sera un chouette témoignage au Forum Mérin fin septembre. Mais nous allons profiter de l'été pour nous préparer. Donc ça, c'est mercredi. Dimanche prochain, il y a culte avec baptême. Ce culte sera suivi d'un apéro. Si vous pensez, pouvez apporter quelques salés, ce serait bienvenu pour accompagner les boissons à disposition. Qui c'est qui se fait baptiser? Je ne vais pas demander de se lever. C'est Will Evan et Alianor Weber. Alors, voilà, elles sont là. Donc prions pour elles pendant cette semaine. On sera là dimanche prochain pour célébrer leur baptême. Voilà, je crois que c'est les annonces que je devais communiquer. S'il n'y a pas autre chose. Voilà.
Alors, oui, levez-vous peut-être pour la bénédiction. J'aimerais vous laisser ce verset que beaucoup d'entre vous connaissez très bien, qu'on a souvent cité, pas toujours dans de bonnes circonstances, mais qui fait un peu suite à ce que j'ai partagé avec vous. C'est ce verset d'Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et ça ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu Jésus, ça s'adresse justement à ceux qu'ils connaissent tellement bien, depuis de tellement nombreuses années, qui pensent qu'ils le connaissent toujours très bien. Mais ils l'ont laissé en dehors de la porte. Et ils s'invitent à rentrer pour s'asseoir et manger et avoir une rencontre authentique avec chacun d'entre nous. Alors que cette réalité habite dans nos cœurs, dans nos vies personnelles, de famille, et que nous sachions ouvrir la porte, l'inviter et manger avec lui. Seigneur, nous te louons parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu qui veut faire ce chemin avec nous, qui veut être notre ami, qui veut s'inviter et qui est juste derrière la porte. Apprends-nous à devenir ces amis loyaux, fidèles, que tu souhaites, de la même manière que tu l'es avec nous. Que ta bénédiction accompagne chacun d'entre nous, qu'elle repose sur chacune de nos familles. Et qu'elles remplissent nos vies de ta paix et de ta joie. Seigneur, ce nom de Jésus que nous venons devant toi et que nous t'invoquons. Amen.
Bon dimanche.